Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec le chanteur Charles-Élie Couture pour son nouveau single Presque Rien. Vous allez voir que c'est pas presque rien. Et puis dans les indispensables, une série de la cuisine avec le fameux veau de la Pentecôte. À cuisiner, évidemment, c'est le principe de la cuisine. En fin d'émission, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino, aujourd'hui avec l'écrivain Sorche Chalandon. Justement, Hélène, vous êtes là, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui commence, Hélène, par une triste nouvelle, la disparition d'une grande cantatrice française.
L'acmé qui l'a rendue très célèbre, la Toulousaine Maddy Mesplé est décédée ce week-end à l'âge de 89 ans. La soprano était l'une des rares à mener une carrière internationale. Alors comme l'a précisé hier le ministre de la Culture, Franck Riester, Maddy Mesplé pouvait tout chanter, l'acmé, le barbier de Séville, les contes d'Hoffmann. La cantatrice a démarré sa carrière au Théâtre du Capitole à Toulouse. Elle est devenue très populaire grâce à ses passages télévision. Et en 2001, Maddy Mesplé a fait ses adieux à la scène. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Alors boulimique de travail, elle pouvait donc tout chanter, opérette, opéra et musique contemporaine. Elle rêvait de devenir pianiste, mais elle reconnaissait bien que sa voix était un véritable don et qu'elle devait s'en servir.
Une cérémonie prévue pour rendre hommage à Guy Bedos.
La disparition de l'humoriste et acteur français provoque une pluie de réactions et d'hommages. Nicolas Bedos, son fils, a annoncé sur Twitter qu'une cérémonie aura lieu jeudi à 14h30 à l'église Saint-Germain-des-Prés, un quartier que Guy Bedos affectionnait beaucoup. Nicolas Bedos précise dans son tweet, il n'était pas très pote avec la religion, mais très ému par les églises.
Tout autre sujet à présent, une question, quel est le calendrier de la réouverture des musées ?
Édouard Philippe a annoncé jeudi dernier la réouverture des musées et monuments à partir du 2 juin. Mais c'est un calendrier qui va s'étaler jusqu'à juillet. Alors, à vos agendas, notez. Le château de Versailles ouvrira le 6 juin. 48 monuments nationaux ouvriront dans la semaine du 6 juin. 32 dans la semaine du 13 juin. Du côté des musées, musée du Quai Branly, Jacques Chirac, le 9 juin. Le musée d'Orsay, le 23 juin. Le MUCEM à Marseille, le 29 juin. Pour le Louvre, le Grand Palais, le Centre Pompidou, rendez-vous en juillet. Comme l'a précisé Franck Riester, le ministre de la Culture, toutes les mesures sanitaires seront prises pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs, dont le recours à la réservation, évidemment, à l'avance, hein, dans certains nombres de sites. Port du masque obligatoire et un sens de la circulation pour la gestion des flux.
Musique, le festival Wheel of Green se met en ligne.
Quel accent, Philippe ? Wheel of Green, vous avez raison. Moi, je dis Wheel of Green.
Ouais.
Et oui, vous faire un petit tacle.
Déjà, vous avez réussi à comprendre, c'est déjà pas mal.
Oh bah, nous aimons le vert.
Oui, oui.
Il devait se dérouler au bois de Vincennes du 3 au 7 juin. L'édition de cette année a été annulée. Alors le festival musical et écologiste a décidé donc de se réinventer sur Internet. Oubliez Wheel of Green pour cette année. Désormais, c'est Wheel of Green TV, édition digitale.
On dit TV.
C'est vrai ça ?
Mais oui.
Jusqu'au bout quand même.
Ouais.
J'ai pas osé dire TV. Bon, quand même, je vous dis le programme de Wheel of Green TV,
ouais.
Édition digitale avec concerts inédits en ligne, conférences et rencontres interactives. Une carte virtuelle du bois de Vincennes sera mise en ligne. Il suffira de cliquer sur les lieux de votre choix. Dance floor pour danser, village innovation pour partager, l'espace food pour manger. Vous allez pouvoir commander dans l'un des 8 restaurants habituels du festival. Côté concert, Catherine Ringer, Métronomie, Beck, Wheel of Green s'engage également à dévoiler les noms qui seront présents en 2021, soit pour le 10e anniversaire du festival.
Et vous nous raconterez la prochaine fois comment on fait pour manger virtuellement. On passe au cinéma avec Sonic qui va avoir une suite.
Ce petit hérisson bleu qui va très vite et qui cartonne surtout 300 millions de dollars au box-office mondial avec le premier volet. Alors selon Variety, le second serait en préparation. Pas de décision concernant le nouveau casting. Alors dans le premier, il y avait Jim Carrey en Docteur Robotnik. Le design de Sonic avait été également revu par les producteurs sous la pression des fans en colère.
Et on termine ce journal en musique.
Avec un titre inédit, Philippe, de Johnny Hallyday, sorti ce week-end dans un coffret célébrant l'année 1969 du Taulier. Ça s'appelle « Une nuit avec moi ».
Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi.
Un morceau qui faisait partie des sessions d'enregistrement de Rivière, un titre laissé de côté à l'époque. Xavier Perrault, le responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal, précise que d'autres moments inédits pourraient être dévoilés prochainement.
Merci beaucoup Hélène, à demain.
Dans un instant, c'est Charlie Couture qui nous rejoint pour parler notamment de son prochain album qui sortira en octobre. On se retrouve juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on est très heureux, Philippe, d'accueillir une figure de la chanson.
Et même de l'art contemporain. Bonjour Charlie Couture.
Salut.
On vous connaît comme chanteur, comme un avion sans aile, compositeur de musique de film, Ciao Pantin, peu de gens le savent. Vous avez même chanté dans la version française de Toy Story. Mais là, vous revenez avec presque rien. C'est pas presque rien, Charlie. C'est un nouveau single qu'on va entendre tout à l'heure. Vous revenez, je l'ai dit, avec un nouveau titre, mais vous revenez tout court. Vous avez été atteint par le coronavirus. C'est vous qui l'avez raconté sur votre page Facebook. Je vous lis. Plusieurs nuits de suite, j'ai déliré et vu la mort en face. Disons non, de trois quarts. J'étais vieux, un arbre mort. Oui. J'avançais à petits pas et je risquais de tomber dans l'escalier. Racontez comment vous avez vécu cet événement, dans quel état vous étiez.
En fait, dans un premier temps, quand j'ai senti que je perdais des forces, je me suis un peu inquiété, mais pas trop, puisqu'on disait que 98% des gens s'en sortaient. Je voulais croire que j'en faisais partie.
D'un mot, pardon. Et puis, déjà, vous saviez que c'était le coronavirus.
Ça y ressemblait. Et puis, j'avais fait deux concerts dans la semaine. J'avais vu beaucoup de gens. J'arrivais des États-Unis. Tout le monde en parlait. C'était dans l'air, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis senti un peu faible. Dans un premier temps, je n'ai pas voulu m'inquiéter. Parce qu'on disait quand même de ce virus mortel qui allait ravager la planète que pour le guérir, il fallait prendre des douches chaudes et boire des tisanes. Donc, je me disais, il doit y avoir pire que ça comme virus mortel. Tu
On
vois.
Disait une grippette, puis, je me souviens très
donc,
bien.
Donc, je me disais, je veux croire que je fais partie des 98% qui vont s'en sortir. Je suis quand même d'une constitution assez solide. Donc, et puis la deuxième semaine, alors là, j'ai piqué du nez, je me suis enfoncé. Mais heureusement, j'ai pu bénéficier d'un soutien médical, si je puis dire, et de la moitié du traitement Raoult, si, en quelque sorte. Et du coup, le but était que de ne pas atteindre les poumons.
Ouais. Le traitement.
Je me suis senti effectivement. Pardon.
Excusez-moi, je vous ai interrompu. Le traitement Raoult, c'est la chloroquine.
Oui, c'est ça, voilà. Mais j'étais déjà, je sentais déjà que j'étais pris. Mais si vous voulez, c'était au tout début de l'épidémie, et donc il y avait du drame dans l'air. À ce moment-là, on croyait que c'était mortel.
Ouais.
Donc, en plus de la fatigue que je ressentais, j'étais inquiet. Ce stress, cette angoisse a amplifié. En plus les ressentis, mais à un moment donné, la deuxième semaine, là j'ai carrément eu le sentiment que je perdais mes forces. Alors est-ce que c'était psychologique, est-ce que c'était réel? Bon, le fait est que j'avais beaucoup de fièvre et que dans la réalité j'avais cette sensation très nouvelle pour moi qui était la perte du goût, une espèce de sensation de métal dans la bouche qui était terrible, quoi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est ça? Et effectivement, deux nuits de suite, j'ai perdu une sorte de conscience de moi, comme si j'étais dans la nuit et comme si je m'approchais d'un trou noir qui m'aspirait. Donc c'est une sensation que je suis très content d'avoir vécue en tant qu'expérience humaine, d'autant que, puisque je m'en suis sorti, ni je suis dangereux pour les autres, ni je crains plus personne, tu vois. Donc,
je vois très bien. Alors vous écrivez beaucoup plus joyeux dans votre Facebook toujours. Depuis que j'ai gagné la guerre, guéri du Covid-19, j'ai retrouvé le son de ma voix et mon énergie. Vous avez vraiment eu peur? Vous avez eu peur d'y passer, vraiment?
Deux nuits de suite, oui. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. On a essayé d'appeler et là, les appels étaient saturés. Donc, heureusement pour moi, au bout de 20 minutes, on a raccroché et je me suis réveillé, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai que je n'avais jamais eu le sentiment à ce point-là de m'ignorer, ouais. Tu vois, à un moment donné où j'avais perdu la conscience de moi, j'avais le sentiment de n'avoir plus de force, mais c'était encore une fois, j'en suis sorti sans une épine dans le dos, sans écaille sur le ventre et la tête toujours à la même place.
Et vous avez gardé, et vous avez gardé votre
humour. Je suis presque gêné d'en parler aujourd'hui.
Alors parce que on va arrêter d'en parler. On va arrêter d'en parler. Justement, vous sortez un nouveau titre qui s'appelle Presque rien. D'un mot, parce qu'après il faut qu'on marque une pause et on va entendre des extraits. L'écriture, okay. Le mixage, ça date de quand? C'est avant ou après la crise? Vous avez tout fait avant, hein?
Bah, tout était fait avant, puisque c'est la bande-son, entre guillemets, de la biographie écrite par David Desvérité qui devait sortir au mois d'avril et qui va en fait sortir au mois de novembre.
On va en
parler. C'est un disque qui accompagne cette première grosse biographie qui sort sur moi.
On va en parler de cette biographie, et dans biographie, il y a bio, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes bien vivant. On va entendre quelques notes. On marque d'abord une pause.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est Charles Elie Couture qui est notre invité. Son nouvel album sort en octobre et on vient, Philippe, d'en entendre le premier extrait, Presque rien.
Presque rien, si j'ai bien compris, c'est un peu la manière, Charles Elie Couture, dont vous voyez l'inspiration.
Oui, c'est vrai que c'est le frémissement d'une feuille qui, quelquefois, t'éveille. Ouais. La création, ça naît d'une envie de faire, en fait. Tu vois, quand j'étais pris par le Covid, ouais. À un moment donné où je m'en suis sorti et les gens me demandaient, est-ce que ça va vous inspirer? En fait, on ne sait jamais ce qui va nous inspirer. On sait juste qu'on a l'énergie de faire. Une œuvre d'art, c'est la conséquence d'un acte, de quelque chose qui est fait, pas forcément qui est quelque chose qui est pensé. C'est après qu'on s'aperçoit que ah, c'est ça que j'ai voulu dire, mais ça, l'élément qui va déclencher la création, on n'en sait rien.
Je veux dire pourquoi je vous demande
ça. C'est le fait d'avoir juste.
Je vous demande ça parce qu'une fois, ça m'avait frappé. Vous aviez dit l'inspiration, c'est comme une caresse sur l'épaule, c'est pas un coup de poing divin dans la gueule. Et moi, je croyais que ça tombait comme ça, l'inspiration, boum, pas du tout, dites-vous.
C'est ça, c'est tout d'un coup une espèce de rencontre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et à un moment donné, on se dit, ah bah tiens, ça, je me sens en relation avec quelque chose. Mais c'est, il faut oser le caprice. Et tout le monde n'a pas ce goût pour se jeter dans le vide. Parce que quand on attaque un roman, ça va être beaucoup de temps passé. Pareil pour un disque. Un disque, ça représente presque 2 ans de travail. Mais quand on commence, on espère tout de suite que ça va se régler vite.
Et une biographie,
c'est presque rien, quoi.
Et une biographie, parce que vous l'avez dit, ce disque devait accompagner votre biographie qui allait sortir. Ça va s'appeler Poème Rock. Ça fait Poète Rock, pardon. Oui. Ça fait référence à votre premier livre, votre premier disque. Je vais y arriver. Qui s'appelait Poème Rock. Ça sera aux éditions de l'Archipel. Oui. Une biographie. J'aime beaucoup le nom de l'auteur.
Ah oui, ça donne confiance, il s'appelle David Desvérité.
Il va raconter que des vérités, donc.
Un documentaliste.
Ouais.
Pardon.
Il va raconter que des vérités sur vous.
Bah, il raconte un point de vue qui n'est pas exactement le même que le mien, mais d'une certaine manière, il est pas malveillant. Alors, c'est déjà ça. Mais disons que ça m'a incité à faire un travail sur mon passé, alors que en fait moi je suis plutôt tourné vers ce que j'ai envie de faire, vers demain. Et là, tout d'un coup, ça m'a permis finalement de mieux comprendre certains trucs, voire de les assimiler.
Quand on va sur votre site Charles Elie Couture, on découvre que la dernière vidéo officielle, c'est la chanson Résister, extrait.
Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister, résister, brother, résister, sister, au temps de la crise comme au temps des cerises, résister, brother, résister, sister,
C'est quand même prémonitoire, résister au temps de la crise. Quand on pense au coronavirus, c'est quand même complètement dingue d'avoir écrit ça. Sur votre Facebook, il n'y a pas que de l'art, il y a aussi des avis et extrêmement argumentés. Vous n'êtes pas tendre avec le gouvernement. Vous dites plutôt que des tests de détection qui remettraient tout en place, on préfère continuer à attendre les 2 milliards de masques en papier qui arriveront, j'adore, comme une boîte de préservatifs au moment de l'accouchement.
Oui, c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Tu vois, on était en plein cœur du cyclone, de l'épidémie, sans savoir ce qui allait se passer. Et je me souviens qu'on allait faire nos courses à visage découvert. Ouais. Et quand on a vu descendre la courbe, à ce moment-là, les masques sont arrivés dans l'état qu'on sait. Certains, c'est rigolo parce que tu juges les gens, leurs conditions sociales. En fonction du type de masque, il y a des gens qui ont des masques en papier, des gens qui se les sont bricolés eux-mêmes, des gens qui l'ont fait avec des filtres à café, enfin bon bref. Et puis il y en a d'autres qui sont hyper techniques, quasiment s'il y a des jauges dessus.
Ouais, j'avais jamais vu.
C'est rigolo, mais ça c'est arrivé après coup quoi.
J'avais jamais vu le masque filtre à café. Alors les concerts sont interdits, on l'a dit, les festivals de l'été ont été annulés. Et alors vous, Charlie Couture, vous n'êtes pas d'accord avec ces mesures, pour quelles raisons ?
Parce que une fois que c'est fait quoi. Depuis la nuit des temps, la quarantaine, elle a duré 40, et puis là ici c'est 60, et puis 80, puis 180, et puis c'est surtout que on a vu que les gens s'étaient fait happer par une sorte d'angoisse de mourir, comme s'ils avaient fait une sorte de burn-out avec leur propre existence quoi. Et ça c'est dangereux parce que on perd l'humanité et c'est bien dans l'humanité que se passe la réponse, pas dans l'inhumanité.
Vous allez même encore plus loin.
Le fait de...
Pardonnez-moi, je vais vous citer, après je vous donne la parole, Charles Elie, je vous cite, vous écrivez « Interdire le lien social et la joie des rencontres sportives, cinéma, théâtre, restos, fêtes et festivals, tout annulé jusqu'à la mi-juillet, mon Dieu », vous écrivez « Une torture dont l'efficacité est loin d'être prouvée, juste pour faire mal, pour faire savoir qu'on est au pouvoir ».
Ah oui ? Oui, disons que quand on voit qu'on est dans une société qui a toléré les drones, avec des rappels à l'ordre, rentrez chez vous, et tout ça, on se dit que jamais dans ma vie, je peux bien te jurer que j'aurais imaginé un jour que j'aurais à remplir une feuille de papier qui disait que je vais chercher du pain ou que je vais promener mon chien à moins d'un kilomètre de chez moi. Mais c'était même pas pensable.
Oui, mais si c'est utile.
Ça, tu réservais ça aux sociétés fascistes.
J'ai bien compris, mais si c'est utile. Même ça, vous n'acceptez pas l'argument de l'utilité.
Mais comment faire... Ok, si tu veux, mais quand on travaille sur le principe de l'invisible, là, par exemple, on s'est rendu compte que toutes ces mesures étaient totalement inutiles. Quand tu sais qu'il y a 2 millions de morts qui sont dues à la faim, et celle-là, en l'occurrence, pour l'instant, on est aux alentours des 300 000 morts à l'échelle de la planète. Ouais. Je ne dis pas que ce soit rien. Tu vois ce que je veux dire, mais je dis que quand on travaille sur l'invisible, on peut dire tout ce qu'on veut. Tu peux pas me prouver que Dieu existe puisque tu ne peux pas me prouver qu'il n'existe pas. Donc disons que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'angoisse personnelle, ça c'est sûr. Mais la réalité de ça, elle est totalement supputée.
On en restera à cette réalité supputée. Merci beaucoup, Charles-Élie Couture. Je rappelle Presque Rien, nouveau single qui annonce un album et une biographie.
À suivre dans Culture Média, une série Homecoming avec Margot Barallon et une bonne recette pour ce lundi de Pentecôte. Ce sera avec Marion Sauveur. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
On découvre nos indispensables du jour, Philippe, et on va parler d'une série avec Margot Barallon.
Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce matin, Margot, vous nous conseillez une série diffusée sur Prime Video, qui est la plateforme d'Amazon.
Oui, ça s'appelle Homecoming, la deuxième saison, qui est aussi, a priori, la dernière, vient juste de sortir. Et c'est vraiment une série que j'adore et dont je trouve qu'on parle beaucoup trop peu. Pourtant, elle avait un argument de poids au moment de la sortie de la première saison. C'était la première fois qu'on pouvait voir l'immense actrice Julia Roberts dans le rôle principal d'une série. Elle avait déjà fait des petites apparitions, notamment dans Friends ou New York Police Judiciaire, mais là, c'était la première fois qu'on la voyait dans le rôle principal.
Mais c'est vrai que Julia Roberts, on ne la voit plus beaucoup devant les caméras depuis quelques années. Qu'est-ce que ça raconte, Margot, cette série ?
Alors, Homecoming, c'est le nom en fait d'un programme de réinsertion pour des militaires américains qui reviennent de mission. Et Julia Roberts, elle joue le rôle d'une psychologue.
Je m'appelle Heidi Bergman et ma mission est de vous accompagner dans votre processus de réintégration. Nos installations ont été spécialement conçues pour assurer votre transition entre la vie militaire et la vie civile dans un environnement sécurisé et calme. Ça veut dire qu'on va vous accompagner pour retrouver une situation sociale et professionnelle. Pour être très clair, je travaille pour vous.
Ça m'a l'air parfait.
Voilà, alors on comprend très vite que c'est un programme assez innovant, unique en son genre, mais aussi un peu étrange. Il y a une sorte de malaise qui s'installe. Par exemple, le patron de l'entreprise qui a créé Homecoming n'est jamais là. Il a parfois des requêtes un peu bizarres. Et puis surtout, dès le premier épisode, il y a des flash-forward, donc vous savez, des bonds dans le temps, mais vers le futur. 4 ans plus tard, on retrouve Heidi Bergman. Elle n'est plus psychologue, mais serveuse, dans un diner un peu miteux. Il y a un inspecteur du ministère de la Défense qui vient lui poser des questions sur son ancien job.
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?
Je vous l'ai déjà dit, j'étais conseillère.
Et ça a consisté en quoi, au juste ?
Je travaillais avec les soldats pour évaluer leur santé mentale. Je m'en rappelle à peine, d'accord ? C'était pas un boulot pour moi.
Madame Bergman... Si je me permets de vous déranger, c'est pour en savoir un peu plus sur ce programme et non pas pour vous contrarier.
Je suis pas du tout contrariée.
Est-ce que vous seriez en mesure de me dire si les soldats étaient volontaires ou pas ?
J'en sais rien.
Il y a une raison pour que vous refusiez de...
Je ne refuse absolument rien. Je me rappelle plus.
Voilà, alors est-ce qu'elle ment ?
Oui.
Est-ce qu'elle a vraiment perdu la mémoire ? Eh bien, vous saurez tout ça en regardant la série.
Ah mince, je voulais savoir, moi.
Ça donne envie.
Qui est, je le précise, parce que c'est assez original, c'est une série qui est adaptée d'un podcast. Un podcast de fiction avec des acteurs professionnels, donc un peu comme une pièce de théâtre audio.
Et alors, pourquoi cette série vous a touché à ce point, Margot ?
Eh bien, parce que vraiment, elle ne ressemble à aucune autre. Vous avez un premier parti pris qui est de ne pas formater les épisodes. Ils durent entre 20 et 35 minutes chacun, mais c'est vraiment le scénario qui va déterminer la durée. Et pas l'inverse. Scénario d'ailleurs très réussi, puisque Homecoming, c'est une série qui prend son temps pour installer une atmosphère, un mystère de plus en plus épais. C'est lent, mais c'est hyper prenant. Et puis, c'est une série visuellement époustouflante, parfois même un poil trop maniéré, mais vraiment, chaque plan est construit comme un tableau. C'est à couper le souffle. C'est bourré aussi de références au cinéma. Par exemple, vous avez beaucoup de plans d'escalier qui sont filmés comme l'aurait fait, comme l'a fait d'ailleurs, Alfred Hitchcock. Et puis, les références ne sont pas uniquement esthétiques. Il y a la musique aussi, elle est intégralement empruntée au cinéma. Il y a eu en fait un travail dingue pour rassembler des partitions de grands films, pour en acquérir les droits et ensuite les utiliser au mieux. Alors par exemple, dans le premier épisode, vous allez entendre ça. Eh bien ça, c'est encore une référence à Alfred Hitchcock, puisque c'est la musique de Vertigo, Sueur froide en français. Alors à chaque fois, c'est pas la musique la plus connue, mais c'est vraiment l'un des sous-thèmes qui est utilisé, et j'ai trouvé ça super intelligent.
Et vous nous avez dit qu'il y avait 2 saisons, est-ce que les 2 saisons sont aussi bien l'une que l'autre ?
Alors j'avais quelques craintes, parce que la première, non seulement elle était sublime, mais surtout au niveau de l'histoire, elle se suffisait à elle-même. Et d'ailleurs, Julia Roberts a refusé de revenir pour la 2e saison. Et en fait, la suite est tout aussi réussie, tout est très cohérent et le casting à la hauteur. Vous avez 2 nouvelles actrices qui vont tenir les rôles principaux. Janelle Monáe, qu'on connaît surtout comme chanteuse aux États-Unis, et Hong Chau. Alors ok, elles sont moins célèbres que Julia Roberts, mais vraiment absolument parfaites.
Merci beaucoup Margot Barallon. Je rappelle que Homecoming est disponible sur Amazon Prime Video. À très très vite, Margot.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je crois, Philippe, que c'est l'heure où on a faim. Non, mais, Culture Média.
Mais oui, c'est l'heure de la Boostify. Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour à tous.
On a trop faim, je trouvais plus le mot élégant. Nous sommes le lundi de Pentecôte et traditionnellement, on mange du veau à la Pentecôte. Pourquoi ça, Marion Sauveur ?
Eh ben, c'est une tradition qui n'a que 20 ans, puisque c'est une idée qui a été lancée en 1998 par une agence de promotion de la viande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bien fonctionné.
Ah ben oui, moi j'ai cru que c'était toujours là depuis la nuit des temps.
Et ben non, mais ça n'a pas été lancé au hasard, parce que comme les veaux naissent à la fin de l'hiver et qu'ils sont abattus à 3 ou 4 mois, on les trouve sur les marchés au printemps. Manger du veau à la Pentecôte n'a donc rien de religieux, mais c'est un produit de saison et les éleveurs ont besoin de notre soutien. Manger du veau.
Et alors, vous nous proposez aujourd'hui 3 recettes originales pour changer de la blanquette, de l'ossobuco ou du veau Orloff.
Oui, qui sont pourtant délicieux, avec 3 façons différentes de cuisiner le veau. On commence avec une recette rapide, une escalope de veau panée. Et pour que la panure soit bien croustillante, j'utilise des céréales, des cornflakes.
C'est pas vrai.
Et si, c'est tout simple, vous allez voir. Première chose à faire, il faut sortir votre viande 30 minutes avant de commencer à cuisiner pour qu'elle soit à température ambiante. Ça va lui permettre de ne pas produire un choc thermique au moment de la cuisson. Sinon, les fibres musculaires vont se contracter et elles vont durcir la viande et on veut qu'elle soit moelleuse, cette viande. Alors, on passe les escalopes d'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf battu avec un peu de sel et du poivre et enfin dans ces cornflakes écrasés. Et une fois que vos escalopes de veau sont recouverte de céréales, vous les faites cuire 5 minutes de chaque côté, alors dans une poêle bien chaude et bien beurrée à feu moyen. Il faut que les escalopes soient bien dorées. Vous pouvez les servir avec une jolie sauce tomatée. Vous faites mijoter pendant 15 minutes des tomates entières pelées en y ajoutant allez, un peu de thym, du romarin et de l'origan. Et puis à côté, une belle poêlée de courgettes, juste revenue dans un peu d'huile et agrémentée de menthe fraîche. Je suis sûre que Philippe, vous allez adorer.
Voilà, puis si on n'a pas de cornflakes, on peut prendre des croustilles miel.
Alors ça sera un peu sucré là par contre, ça va peut-être pas être génial.
Évidemment, je le savais, je regardais si vous suiviez. Alors si on reçoit, est-ce que vous avez Marion une recette qui en jette un peu dans l'assiette?
Oui, on va faire un roulé de veau, comme un gâteau roulé si vous voulez, mais avec du veau. Alors pour cette recette, je prends du quasi de veau, mais vous pouvez aussi choisir la noix. L'avantage du quasi, c'est que c'est un morceau vraiment bien moelleux. Alors j'étale la viande sur une planche et je vais mettre plusieurs couches dessus. Je recouvre d'abord de lard toute la viande, ensuite des pousses d'épinards fraîches, je parsème d'estragon et j'ajoute pour la gourmandise des copeaux de parmesan. J'oublie pas de saler et de poivrer et je roule le quasi de veau sur lui-même. Il faut que la viande soit bien serrée et je la ficelle tout simplement. Et ensuite, on la fait dorer dans une cocotte sur toutes les faces comme un rôti à feu vif. Je rajoute ensuite de l'huile d'olive. Je mets quelques échalotes émincées, des tomates, du vin blanc, du thym et du laurier pour avoir un petit peu de goût. Et je laisse mijoter à couvert à feu doux 40 minutes en venant bien sûr remuer, regarder de temps en temps ce qui se passe. En fin de cuisson, j'enlève ma viande, mais je laisse réduire la sauce dans la cocotte en augmentant le feu. Et pendant ce temps-là, je découpe les tranches. Et on voit apparaître, vous allez voir, de jolies spirales avec le vert de l'espinard et puis le blanc du parmesan qui va couler. Vous allez voir, ça va faire sensation dans votre assiette.
Non, ça, c'est le niveau top chef. Et si on veut préparer à l'avance?
Alors, vous pouvez servir votre veau froid en émincé en salade. Et c'est un plat d'ailleurs qu'on peut faire et emmener en pique-nique. Et on n'a pas l'habitude de le manger comme ça, le veau, c'est assez sympa. Alors, le plus long dans la recette, c'est de cuire la viande. Mais si vous avez des restes de rôti de veau de la veille, ça va être encore plus simple. Sinon, vous choisissez chez votre boucher une belle noix de veau. Vous la cuisinez, vous la cuisez dans une cocotte pendant 1h20. C'est un peu long, mais il n'y a rien à faire. Vous mettez de l'eau à hauteur avec des aromates, de l'ail, de la noix de muscade, du thym, du laurier, du romarin, du clou de girofle, faut que ça ait du goût. On n'oublie pas de saler et de poivrer encore une fois. Et à la fin de la cuisson, vous roulez la viande dans un papier film, donc sans l'eau hein, cette fois, et vous la laissez reposer une nuit au frais.
Il vous reste 10 secondes pour dire ce qu'on en fait ensuite.
Oui, on la tranche très finement et on la dispose avec des légumes crus, des radis émincés, quelques carottes, quelques graines de sésame, des feuilles de basilic et on recouvre d'une vinaigrette bien moutardée.
Merci beaucoup délicieux. Et on mange. Merci beaucoup Marion Sauveur qu'on retrouve tous les samedis auprès de Laurent Mariotte à la table des bons vivants pour le journal de la cuisine.
Bientôt la dernière partie de Culture Média, ce sera avec Hélène Manarino et son portrait inattendu de Sorge Chalandon sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et après le veau de la Pentecôte, je vous propose notre dessert à nous, hein, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino, Philippe.
C'était le premier de la saison avec Sorge Chalandon, journaliste, grand reporter, écrivain et quel écrivain. Il venait de publier chez Grasset, Une joie féroce. On écoute Hélène Manarino.
Bonjour Sorge Chalandon.
Bonjour.
Ce que vous revendiquez par-dessus tout, c'est d'être un homme libre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si quand vous étiez bébé, votre nourrice vous surnommait Sorge, ce qui signifie liberté en gaélique.
Oui. C'est vrai ?
C'est vrai.
Alors Sorge Chalandon, il y a aussi d'autres aspects. L'homme qui vit à 100%. Et il n'y a aucun doute, comme quand vous donnez des cours au CFJ et que vous demandez aux étudiants de se mettre dans une ambiance de rédaction et de boucler un journal jusqu'à 4h du matin avant de tous les emmener au resto, ce qui est plutôt sympa.
Comment vous savez ça ?
Attendez, c'est que le début.
Gardez bien cette phrase, je pense que vous allez la redire souvent.
Je préfère la dire encore. Comment vous savez ça ?
Vous collectionnez, je ne dévoile pas mes sources en tant que journaliste, vous collectionnez les bustes de grandes personnalités telles que Lénine, Tintin ou même le pape, mais aussi les petits carnets sur lesquels vous écrivez. Un homme passionné, aux multiples talents que vous laissez exprimer quand vous vous réfugiez seul pour réaliser des maquettes de bateaux. des aquarelles ou quand vous fabriquez un moulin pour la crèche provençale de votre belle-mère non, et vrai. Cela là, vous a pris un an.
Non, c'est pas possible. Alors, soit vous êtes entré chez moi par effraction.
Non, c'est pas possible. Non, mais moi, j'apprends deux choses. D'abord, comment vous savez ça? Mais déjà, Serge Chalandon, moi, je le voyais comme grand reporter. Il était au milieu de l'Ira avec des balles, un gilet pare-balles et un casque lourd. Et le gars, il fait une crèche provençale pour sa belle-mère
et
pendant
un
moulin. Un moulin brique à brique, mais comment c'est pas possible? Non, là je comprends pas.
Je continue.
Il y a un traître parmi nous.
Pas du tout.
C'est pas moi.
Pas du tout. C'est extrêmement bienveillant.
Ouais. Non, je sais. Non, mais c'est personne ne parle de ça à part autour de la table familiale. Ça que je comprends pas.
Bah, peut-être que j'étais là. Vous vous en souvenez plus.
Peut-être vous avez trop parlé avec le dîner avec les étudiants du CFJ. Était trop arrosé.
Oui, mais le moulin n'était pas fait encore.
Ah. Non, c'est ça. Alors, mais vous isolez pour travailler, c'est ce que vous préférez. Et oui, Serge Chalandon, vous avez des méthodes bien à vous pour écrire. Il faut que ce soit la nuit, de préférence à Dieppe, notamment pour commencer, puis vous relire. Et c'est toujours dans le même hôtel et dans la même chambre. Mais c'est surtout en écoutant ça. Et oui, Cecilia Bartoli, c'est elle qui vous transporte et vous concentre. Elle est l'élue d'un homme passionné de musique et qui peut absolument tout chanter. Vous connaissez tous les chants révolutionnaires par cœur, des chants irlandais, ou encore une chanson de votre ami Jean-Jacques Goldman que vous adorez interpréter avec votre copain restaurateur Alain, et vous chantez tous les deux dans son restaurant, même quand il y a des clients.
C'est quoi le resto? Parce que moi, je sais pas.
Ça s'appelle
si
le Musset et ouais. c'est mon restaurant. Il est place du Palais Royal. Il est tout près du Canard Enchaîné. C'est vrai que lorsque je passe la porte, le patron arrive et on chante ensemble devant
devant les clients. Éberlué.
Ahuri.
C'est un spectacle.
Non, c'est très joli. Puis on chante doucement. C'est pas un hurlement. C'est juste comme deux copains qui se retrouvent et qui ont un petit code.
Vous savez vraiment tout faire. Ce don de chanteur vient peut-être du groupe Pulsar que vous avez créé à l'âge de 18 ans avec vos amis. Et oui, vous avez fait ça.
Et justement, les membres de Pulsar sont là.
Ils sont là. Vous aimez les grandes émotions, le fou rire lorsqu'il s'agit de raconter l'histoire du correspondant de Libération au Liban qui, pour vous faire croire qu'il était sur la ligne de front, tapait sur la baignoire de son hôtel avec une louche.
C'est vrai ?
C'est vrai.
C'était qui ?
Enfin, c'est pas exact. Ah non, je peux pas. Ça.
C'était
une radio concurrente. C'est pire que ça. Enfin, c'est pas exactement
Jean
ça.
C'était Jean Asfeld.
Non. Non, jamais. C'est un correspondant qu'on a chopé un jour, qui enregistrait, qui avait toujours un agra sur le balcon, et qui enregistrait à Beyrouth dès qu'il y avait des coups de feu. Et un jour, il y a un mariage de Russes qui passe avec une mitrailleuse lourde, et cette mitrailleuse a un rythme particulier. Ta 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 ta. On dit OK. Et un jour, je l'entends qui est le seul à être arrivé à Tripoli. Et je suis à Tripoli. Ta 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 ta. Et ça, on savait que ça avait été pris sur le balcon de l'hôtel en plein Beyrouth et qu'il n'avait jamais été à Tripoli.
Fact-checking, le premier fact-checking.
Il est là.
Mais on ne l'a pas embarrassé. Parce que c'était un type sympa, puis il payait son pot, donc on s'est dit...
Ah, si on paye son pot.
Le problème, c'est que nous, pourquoi vous n'y êtes pas à Tripoli? Toutes les rédactions nous sont tombées dessus.
Hélène. Alors, on parlait de fou rire, mais il y a aussi les larmes. Les dernières devant le film, Les cerfs-volants de Kaboul. Mais l'histoire qui vous a toujours...
Ça, là, c'est pas possible, parce que je n'ai pas encore écrit dessus. Je l'ai vu il y a deux jours.
Mais je suis partout, sur Chalandon. Bah oui, mais l'histoire qui vous a toujours bouleversé, elle est chantée par Léo Ferré.
Marie-toi, sois heureuse. Et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer.
L'affiche rouge, il reprend le poème d'Aragon, inspiré de la lettre envoyée par le résistant Missak Manouchian à sa femme Mélinée avant de mourir en 1944. C'est pour cette raison que votre fille aînée s'appelle Mélinée. Quand vous ne travaillez pas, Serge Chalandon, le temps est pour votre vie de famille ou la série Peaky Blinders. À la maison, c'est vous qui cuisinez. Et vous êtes aussi un véritable papa poule, papa protecteur, papa extrêmement généreux. Il est difficile pour vous de dire non à vos deux filles. Avec Serge, c'est oui, notamment pour leur acheter une glace, même plusieurs glaces. Et quand on vous fait la remarque, vous répondez « Petit, moi j'avais le droit de manger une glace et une fois par an ». Pas étonnant que votre devise, Serge Chalandon, soit « Notre revanche sera le sourire de nos enfants ».
Je suis absolument... sur le cul. C'est pas très joli comme expression, mais je pense que cette dame chroniqueuse, il faut absolument la garder. En même temps, elle est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que si j'étais dans un réseau de résistance, je serais arrêté dans la minute. Mmh.
Ouais.
Elle est incroyable. Non, vous êtes absolument incroyable. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses.
On ne se connaissait pas.
Je sais qu'il y a des choses qui traînent ici ou là, etc. Mais dans ce que vous avez dit là, il y a des choses qui ne sont absolument inconnues que de moi et de moi.
Vous savez quoi ? Elle s'appelle Hélène Manarino.
Merci.
Bien sûr.
Et vu que je suis un peu le patron de cette émission, je pense qu'on va la garder, qu'elle sera là demain.
Et oui, on la retrouve, Hélène Manarino, demain pour le Journal de la Culture et ses jolis portraits inattendus.
Culture Média, c'est terminé. Merci à tous. Je salue le retour de Nicolas Souvent aux manettes. Nous, on se retrouve demain à 9h avec, on va parler d'abord de la soirée féminicide sur France 2. Nous serons avec Lorraine de Fouché et Jérémy Frey et puis le cinéaste Cédric Lapiche pour son film 2 mois sur Canal, suivi d'un documentaire portrait que j'ai déjà vu absolument passionnant dans lequel il se livre sur sa manière de travailler. Salut Céline Dacosta.
À demain Philippe Vandel. Dans un instant, Andrew Manoff débarque avec toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Bob Sinclair et la danseuse étoile Dorothée Gilbert sur Europe 1.